Chers amis, content de vous retrouver et d'aborder avec vous l'ouverture du sixième sceau. Là, nous allons changer un petit peu de décor et vous allez vous en rendre compte, nous changeons de temps. Mais lisons ensemble ce texte. Il s'agit de la fin du chapitre 6 d'Apocalypse, à partir du verset 12. Je regardai quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône » et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? Voilà un texte impressionnant et qui a parfois été interprété comme le retour de Jésus, mais je crois qu'il nous faut regarder ce texte d'un petit peu plus près. Et en réalité, une fois encore, c'est en regardant les textes parallèles que nous allons comprendre ce qui se passe et que nous allons trouver des explications à ce qui se passe. Alors, l'élément que je vais regarder de plus près, c'est la notion de lune rouge comme du sang. Ce texte nous donne là un renseignement qui est extrêmement précieux parce que les textes qui nous parlent d'obscurcissement de soleil et d'obscurcissement de la lune sont extrêmement nombreux, alors que les textes qui nous parlent d'obscurcissement de soleil et d'une lune rouge comme le sang, ceux-là sont rares. Alors, lisons quelques-uns de ces textes-là. D'abord, Ésaïe. Au chapitre 13 et au verset 9. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. On réduira la terre en solitude et on exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne font plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Donc, vous voyez, obscurcissement du soleil et de la lune. Alors, on va lire un deuxième texte dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2 et au verset 10. Joël, chapitre 2, verset 10. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Il y a encore bien d'autres textes, mais vous voyez, le soleil et la lune marchent de pair. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Dans le texte de Joël, au chapitre 3 et au verset 15, on trouve la même chose. Joël 3, 15. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Mais voyons maintenant quelques textes du Nouveau Testament. Alors d'abord dans la grande fresque prophétique de Jésus au chapitre 24 du livre de Matthieu, nous trouvons ceci au verset 29. Matthieu 24, 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Dans le texte parallèle, Matthieu 13, verset 24, vous trouvez la même chose. Et jusque dans le livre de l'Apocalypse, dans un chapitre que nous n'avons pas encore étudié, mais au chapitre 8 que nous étudierons bientôt, nous trouvons la déclaration suivante, Apocalypse 8, 12. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdît un tiers de sa clarté et la nuit de même. Après vous avoir montré tous ces textes qui nous parlent de l'obscurcissement du soleil et de la lune, j'aimerais maintenant vous parler de deux textes qui font exception. Alors, ces deux textes sont, un, le texte que nous venons de lire dans Apocalypse 6, le texte que nous étudions, et puis un autre texte qui se trouve dans Joël, dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2, et à partir du verset 28. Dans certaines versions, ce passage, cette fin du chapitre 2, est isolé et forme le chapitre 3, et dans ce cas, le livre de Joël a 4 chapitres. Mais retenons la numérotation que nous avons ici. Donc, nous allons lire le texte de Joël au chapitre 2 et au verset 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se chargera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Voilà un texte extrêmement intéressant et qui va nous aider dans la compréhension de l'Apocalypse à la fois sur la fin du chapitre 6, sur le chapitre 7 et sur le début du chapitre 8. D'abord, il nous donne des indices chronologiques. Il nous dit que cela va arriver avant le jour de l'Éternel. Et c'est bien normal. Au fond, que nous décrit ce texte ? On pourrait le diviser en trois parties. La première partie, les versets 28 et 29, nous décrivent ce phénomène extraordinaire qui est la pluie de l'Esprit. L'Esprit de Dieu va saisir le peuple de Dieu et tout le peuple de Dieu. Les personnes âgées, les jeunes, ceux qui sont en activité, toutes les couches sociales, les patrons, mais les serviteurs, les servantes, tous. Il y a là un phénomène extrêmement curieux et dont vous conviendrez avec moi qu'il n'a pas encore eu lieu. Toutefois, on en a eu une petite image. Et cette image, c'est cette première partie, cet accomplissement partiel de la prophétie, c'est Pierre qui l'a observé et qui a très bien compris qu'il pouvait citer le texte de Joël à cette occasion-là. Et cette occasion, c'était la Pentecôte. Et je vous invite à lire avec moi dans le deuxième chapitre des Actes ce qui se passa à ce moment-là. Actes au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Mais voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» À ce moment-là, des bruits commencent à courir. Il est le matin, il est 9h du matin. Il n'est pas dans l'habitude des disciples d'abuser des boissons alcoolisées, mais les cancans commencent à circuler. Les gens jasent. Et l'on dit, ils ont bu, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre va devoir répondre à cette objection et dire très exactement ce qu'il en est. Verset 14. « Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à ma parole. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Pierre a très bien compris qu'il se trouvait devant ce phénomène décrit par Joël. À une nuance près, la pluie de l'Esprit à ce moment-là a touché quelques personnes. Quelques dizaines de personnes, peut-être 70, peut-être 100, peut-être 120, mais un nombre limité, néanmoins un nombre important des disciples à cette époque-là. Or, le texte de Joël nous dit qu'il s'agit en réalité de saisir tout le peuple de Dieu. Et il nous dit que c'est peu avant le jour du Seigneur. En d'autres termes, ce phénomène qui s'est produit du temps de Pierre, c'est-à-dire dans l'Église naissante, va se reproduire de manière beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande, dans un avenir dont je ne peux pas vous dire à quelle distance il se trouve, mais dans un avenir que j'espère proche. Mais me direz-vous, comment le saurons-nous? Et c'est là l'objet de la deuxième partie du livre de Joël. Le chapitre 2 de Joël annonce non seulement cette pluie de l'Esprit, mais il va annoncer des signes cosmiques, des signes qui vont bouleverser la terre, des colonnes de feu, de fumée, et un tremblement de terre énorme, immense, tel qu'on n'en a pas vu, ou du moins de mémoire d'homme, ou de mémoire d'historien. Un tremblement de terre où toutes les îles et toutes les montagnes seront bouger de leur place. On sait très bien qu'à l'occasion du tsunami survenu dans le sud-est asiatique, des îles ont un peu bougé. Et lors de l'accident de Fukushima aussi, de quelques centimètres, 1 ou 2 mètres, dit-on parfois. Mais là, ça n'est pas une île, un îlot. C'est l'ensemble des plaques tectoniques qui vont jouer, qui vont faire que les distances entre les îles et les pays côtiers, mais même à l'intérieur des terres, au niveau des montagnes, tout cela va bouger. Alors on imagine bien qu'un tel tremblement de terre, accompagné de signes extrêmement étonnants, comme le ciel qui se dérobe, comme un livre qu'on roule, et je suppose qu'il s'agit là d'une immense pluie d'étoiles filantes, mais un tel phénomène, évidemment, est susceptible d'engendrer la terreur. Et c'est ce qui nous est décrit dans le texte. Tout le monde est terrorisé. Les grands, les petits, les chefs militaires, les hommes libres, les esclaves, tous se cachent dans les rochers des montagnes et dans les cavernes, comme si les abris anti-atomiques qu'ils peuvent construire ne suffisaient pas, ou peut-être désigne-t-on ainsi les abris qu'ils ont cherché à construire. Mais quand toute la terre bouge, il y a de quoi ébranler l'esprit humain le plus établi et le plus ferme. Et ces hommes-là tremblent. Et ils tremblent à un point qu'ils disent, mais qui peut subsister? Et manifestement, dans cette question, il y a toute l'angoisse de ces hommes, et ils n'attendent pas de réponse, parce que pour eux, la réponse est évidente, personne ne peut subsister. Et Joël, le livre de Joël, dans sa dernière partie, va nous donner une réponse. Et j'aimerais la relire avec vous. Il s'agit du verset 32 du texte du prophète Joël au chapitre 2. Dernier verset. « Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Le salut est sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Plusieurs indications dans ce verset. Il y aura des réchappés. Il y a un reste là qui va subsister. Et non seulement il va subsister, mais il est sur la montagne de Sion. Ah, la montagne de Sion, c'est encore une métaphore. La montagne de Sion est normalement située à Jérusalem, mais il y a eu plusieurs localisations qui ont été avancées. Là n'est pas le point important. Parce que si nous nous reportons à l'Apocalypse, au chapitre 14 et au verset 1er, nous voyons qui et sur la montagne de Sion. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Voilà les rescapés, voilà les survivants. Ils nous sont présentés dans le texte d'Apocalypse 14 comme des prémices. Vous savez, la moisson n'est pas encore là, mais quelques grains, quelques épis ont déjà mûri. Ils sont déjà mûrs et prêts à être moissonnés. Alors c'est ce groupe-là qui est un peu en avance sur les autres. C'est ce groupe-là, des 144 000, dont nous verrons la définition bientôt. C'est ce groupe-là qui fait partie des rescapés. Et si l'on comprend que ce sont ceux qui sont sur la montagne de Sion, ce sont les mêmes qui ont reçu cette pluie de l'Esprit. Et donc, voyez, ce qui apparaît pour les uns comme une fin imminente qui peut subsister est en réalité pour le peuple de Dieu un début. Ce démarrage, ces 144 000, ce peuple qui reçoit la pluie de l'arrière-saison, ce peuple-là, c'est celui qui va subsister. Et pourquoi reçoit-il la pluie de l'arrière-saison, cette pluie de l'Esprit ? C'est parce qu'il a le même rôle que ceux de la Pentecôte du temps de Pierre. Il s'agissait d'annoncer à tout le peuple la bonne nouvelle de l'Évangile. Eh bien, je vous invite, lors de notre prochain entretien, à regarder à ces 144 000 et à vous préparer à en faire partie.